Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Françoise Giroud, 1916-2003. Quelques jours après l'anniversaire de la loi Veil, légalisant l'IVG, et alors que vient d'être remis le prix qui porte son nom, Françoise Giroud est à l'honneur aujourd'hui dans Une vie, une œuvre. Femme verticale, qui collectionnait les amants au grand pied, maîtresse de forge aux côtés de Jean-Jacques Servan-Schreiber, Mauriac et de jeunes femmes libérées, chiffon rouge des gaullistes, féministe, première script girl française, journaliste et romancière, Françoise Giroud était cette fille d'Israélite de l'Empire ottoman, sauvée par Jacques Lacan et qui n'eut d'autre choix que d'être une héroïne. Françoise Giroud, un documentaire de Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin.
Vous avez participé à la création de Elle,
oui.
Qui a été, le premier numéro est sorti le 21 novembre 1945.
Oui.
Donc il y a eu des études autour de Elle.
Non,
vous
aucune,
avez,
aucune.
Vous avez visé un créneau spécial,
non,
un type de femme
spéciale.
Vous savez,
à cette époque-là, d'ailleurs, le mot créneau signifiait tout simplement qu'on était sur un château fort. Il était tout à fait inconnu. Et Elle s'est créée dans un désordre total, mais total. Tout ça se passait dans le désordre de François, puisque elle était dans l'immeuble de François. Et je me souviens qu'avec Hélène Lazareff, nous partagions pas seulement un bureau, nous partagions une chaise. Comme nous étions toutes les deux très minces, il n'y avait pas d'inconvénient majeur, mais enfin, c'est tout de même assez caractéristique de l'état dans lequel on était quand on a fait ce journal. Moi, j'avais une idée très précise, et je pense qu'Hélène l'avait aussi, nous entendions très très bien, consistait plutôt que de chercher une image de la femme, de créer nous-mêmes une image des femmes. Elle est le premier journal féminin qui a imprimé le mot « amant », par exemple. Ça a l'air d'une blague aujourd'hui. Mais c'était absolument révolutionnaire. Et je crois que c'est la première année de Elle, moi j'ai fait une enquête qui s'appelait « La Française est-elle propre ?», d'où il ressortait d'ailleurs qu'elle était sale, et qui avait fait un véritable scandale. Donc c'était surtout un journal provocant, qui cherchait à provoquer la réflexion des femmes, à leur montrer qu'elles étaient dans la vie, qu'elles devaient y participer de toutes les manières.
Mais vu aujourd'hui, avez-vous le sentiment qu'elle a participé à l'émancipation des femmes ?
L'émancipation, certainement, mais peut-être pas dans le sens où on l'entend d'habitude. Encore une fois, je crois qu'elle a été un journal insolent, avec tout ce que ça a de positif d'être insolent.
1953, vous êtes passé de Elle à l'Express.
Et j'ai donc fondé l'Express avec Jean-Jacques Servan-Schreiber. J'ai dû quitter Elle en 52, fin 52, quelque chose comme ça, et l'Express est né en mai 53. L'Express a été créé bien clairement pour soutenir, et si possible être au pouvoir, la politique de Pierre Mendès-France.
Fabrice Dalméda, quelle est la genèse de l'Express ?
L'Express, c'est une aventure un petit peu amusante parce que c'est un peu un patron de presse fou qui s'appelle Jean-Jacques Servan-Schreiber qui, au début des années 50, se sent une envie de monter un journal. Il y en avait déjà un dans la famille depuis pratiquement, je crois, la Première Guerre mondiale. Et lui, il veut essayer de lancer un journal parce qu'il est militant du Parti radical et qu'il y a un homme qui lui paraît être une sorte d'homme providentiel pour la 4e République, qui est Pierre Mendès-France. Mendès-France, c'est le leader de l'aile gauche du Parti radical. Et donc, c'est celui qui est l'espoir d'une bonne partie de la jeunesse de centre-gauche, parce qu'ils ont le sentiment qu'il est capable d'introduire à la fois une rigueur budgétaire, un sérieux économique. Et ça, je crois que Jean-Jacques Servan-Schreiber y est très sensible. L'idée qu'on modernise la France. Et puis, il y a une autre dimension qui est très importante pour l'époque, c'est qu'on est en pleine guerre d'Indochine, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a une guerre très dure qui est en train de se mener à l'autre bout de la planète, mais dans laquelle la France est impliquée, dans laquelle elle est un peu le soldat en première ligne contre le communisme. Et on a le sentiment que Mendès-France est capable de mettre fin à ce bourbier dont la France ne sait pas comment sortir. Et c'est d'ailleurs ce qui va se produire. Et c'est comme ça que va émerger l'Express. Donc, à partir de ce moment-là, Jean-Jacques Servan-Schreiber va chercher des gens pour s'entourer. Et un peu par accident, lors d'une soirée mondaine, il tombe sur Françoise Giroud. Et là va commencer une amitié amoureuse. Et donc, aussi une relation professionnelle très étroite entre ces deux personnes, puisque Françoise Giroud, elle, au lendemain de la guerre, bon, elle était rentrée à elle, et elle va accepter, je trouve que c'est un risque professionnel énorme qu'elle prend, parce que quitter elle, qui était une machine qui marchait extrêmement bien, qui gagnait beaucoup d'argent, qui avait de la publicité, qui était aussi un cocon, parce qu'elle était avec un groupe de personnes qu'elle connaissait, du monde du spectacle, du monde des arts, du monde des lettres, et là, tout d'un coup, elle se retrouve un peu balancée dans un hebdo qui doit être un hebdo politique, qui est une petite expérience, donc elle fait un pari énorme.
Serge Julie, dans les années 50, lorsqu'elle dirige l'Express, Françoise Giroud, elle la préinvente, cette révolution journalistique. C'est quoi son style ?
C'est une autre révolution journalistique, l'Express. C'est une révolution très importante. C'est la révolution du magazine d'actualité. La France a une culture de quotidien. Il ne faut jamais oublier JJSS, parce qu'il n'y aurait pas JJSS, il n'y aurait peut-être pas eu Françoise Giroud. Elle aurait sans doute écrit beaucoup, mais peut-être pas fait ce journal-là. Il y a l'idée du JSS de copier ces magazines américains que sont Time et Newsweek et de l'adapter à la presse française. Ça sera un succès formidable. Ils n'ont pas trouvé tout de suite, parce qu'ils sont partis sur le quotidien. Il ne faut jamais oublier que l'Express était d'abord quotidien. Et puis, ils sont passés au magazine, à l'hebdomadaire, qui respirait encore un peu le quotidien. Et puis, à l'intérieur de cette rupture, ils ont fait eux-mêmes une vraie rupture, qui a été d'en faire un vrai magazine. Et donc, ils ont magasinifié la presse, la consommation de la presse. Ce succès va être tel que... l'ensemble, la presse dominante en France va devenir la presse magazine.
Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.
Ooh, 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 ooh. Non seulement... Le journal invente, comme souvent les grands journaux, invente une génération de journalistes, une génération de journaux. On peut dire que l'Observateur de Jean Daniel sort de l'Express de la même manière que Le Point sort de l'Express. Même Jean-François Kahn sort de l'Express. Donc il y a un genre complet qui s'impose en France.
Le fait qu'il y ait beaucoup d'intellectuels qui collaborent à l'Express, hein, on le doit à Françoise Giroud.
Alors, on le doit en partie à Françoise Giroud parce que c'est elle, d'une certaine manière, c'est elle qui avait elle est un peu plus âgée. Elle avait les réseaux un peu plus étendus que Jean-Jacques Servan-Schreiber. Elle avait commencé à en faire travailler un certain nombre déjà à elle. Il faut pas l'oublier, hein. Donc, elle avait un carnet d'adresses qui lui permettait de demander ça. Et en même temps, je pense que l'envie d'avoir des intellectuels, c'est aussi une envie de Servan-Schreiber. Pourquoi? Parce qu'on est à un moment donné où, dans le débat, il faut montrer qu'on a des idées. Il faut montrer qu'on n'est pas seulement bon dans le fait. Hein, aujourd'hui, c'est beaucoup l'actu pour l'actu dans la presse. Eh bien, à cette époque, il faut non seulement l'actu, mais il faut les idées et les commentaires.
Et ça, c'est propre à l'Express, hein, où tous les journaux essaient d'avoir leurs intellectuels. Est-ce que c'est eux qui donnent le « là » ?
Non, c'est pas eux qui donnent le « là ». C'est une attitude qu'il y a dans toute la presse et qui vient d'une certaine manière, on pourrait la faire remonter à l'affaire Dreyfus, hein, cette espèce d'obsession de la presse française pour les intellectuels. Mais là, dans l'immédiate après-guerre, c'est plus les journaux communistes, des journaux comme Combat qui font intervenir les grandes figures que sont, faut pas l'oublier, hein, déterminants, Sartre, Simone de Beauvoir, Camus, bref, on a tout un monde, Aragon, et pour l'Express, celui qui va être un peu cette figure tutélaire, hein, Mauriac qui finit par quitter Françoise Giroud, et l'Express, parce qu'il trouve qu'ils sont trop anti-gaullistes dans les années 60, mais ça, c'est presque une autre histoire, puisqu'ils vont travailler presque une décennie ensemble.
He's got his hat and made himself hard to find. It doesn't mean you should go crazy. It could be that way sometime.
Que ce soit François Mauriac, que ce soit Jean-Paul Sartre, que ce soit Albert Camus, etc.
Laure Adler.
Les plus grands intellectuels à l'initiative de Giroud et de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Mais c'est Giroud qui allait les chercher. Et c'est Jean-Jacques Savant-Schreiber qui allait les persuader. C'est Giroux qui était la tête chercheuse de toutes ces grandes signatures qui sont venues rejoindre l'équipe de l'Express. Et là, on peut dire que vraiment, c'est quelqu'un qui est allé vraiment sur les traces de son père, mais sans le savoir.
Mon père est mort quand j'étais très petite fille, je l'ai très peu connu.
Archive extraite de l'émission Le Bon Plaisir de François Giroux avec Jacques Fayet.
Qu'on en a toujours parlé, beaucoup parlé naturellement, et que cette béance, cette absence est devenue quelque chose d'énorme. Une véritable mythologie, en effet, comme vous le disiez, avec laquelle j'ai dû vivre. Et tout ce que je peux vous dire, c'est la représentation que l'on m'en a donnée. C'est-à-dire celle d'un homme très brillant, très jeune, puisqu'il est mort à moins de 40 ans, très courageux, totalement engagé dans la vie publique, et se battant pour les bonnes causes. Et donc, c'était une sorte de héros auquel il fallait absolument que je ressemble.
Il était journaliste.
Il était journaliste.
En cela, vous lui avez ressemblé, mais enfin beaucoup plus tard.
Oui.
Il a même créé une chose très importante.
Il a créé l'agence télégraphique ottomane qui lui appartenait, dont il a été le fondateur. Mmh. C'était un de ces hommes très dynamiques, encore une fois très engagé dans la vie publique, et ambitieux dans le bon sens du terme, et qui a certainement joué un rôle important à son époque, là où il était.
Mmh. Alors là où il était, c'était dans son pays ? Bien sûr.
Il a été condamné à mort. Non. Parce qu'il refusait de mettre l'agence en question, l'agence télégraphique ottomane, au service de l'Allemagne au moment où la Turquie est entrée en guerre à côté de l'Allemagne. Et ma mère était partie quelques semaines avant. Moi, je n'étais pas née à l'époque. Et lui a réussi à s'enfuir. Donc tout ça alimente largement une légende.
Michel Cottin, la première fois que vous l'avez vu, François Giroux, quelle impression elle vous a faite ?
C'est idiot, parce que c'est une histoire d'amour, quoi, quasiment. La première fois que je l'ai vu, je vais vous dire, c'était dans une rue. Et elle passait dans une rue en conduisant sa voiture. Et moi, j'arrivais de Nice, et j'étais à Sciences Po. Et je me suis dit, voilà, je veux être comme ça, quoi. Je veux ressembler à ça. C'est une femme libre. Et la deuxième fois, c'est lorsque, par un hasard absolu, on m'a dit « François Giroux cherche quelqu'un ». Je me vois encore. J'étais donc, je finissais ma thèse de sciences politiques. Au fond, j'avais une espèce de chemin assuré vers le CNRS et l'écriture de livres politiques. Et j'ai tout lâché.
Vous arrivez en quelle année à l'Express, hein ?
Oh, j'arrive dans les années 63. J'arrive à la rentrée 1963 pour m'occuper de l'assistanat de la rubrique littéraire. Donc pas du tout, c'était pas du tout politique, mais je sortais de Sciences Po, j'avais un doctorat de sciences politiques, mais quand on m'a dit l'Express, j'étais prête à faire n'importe quoi pour entrer à l'Express, et donc y compris m'occuper d'autres choses que de politique, et je l'ai fait. Voilà. Et puis après... j'ai opté parce que Françoise m'en a donné l'occasion, et Jean-Jacques Savant-Schreiber, pour un journalisme politique plus aigu.
Quelles étaient les grandes plumes de l'Express au moment où vous y arrivez ? Mauriac était parti, la guerre d'Algérie était finie.
Oui, c'est, moi je suis arrivée au moment où partait toute l'équipe qui est maintenant l'Observateur. C'est-à-dire à l'époque du départ de Jean Daniel. Hein, je crois qu'on a passé une semaine, il faisait ses valises quand je suis arrivée. En même temps que Serge Laforie, qui était très proche de Françoise, qui était même Françoise Giroux disait toujours qu'elle avait dans sa vie, elle avait sans doute l'homme qu'elle avait sans doute vu le plus souvent, c'était Serge Laforie parce qu'il était directeur de la rédaction. Il y avait le départ de tous les caciques de l'Express de la guerre d'Algérie et restait encore Michel Manceau, qui faisait partie de cette même équipe, mais qui est parti presque tout de suite, et est arrivé comme directeur politique Jean Ferniaud, puis Claude Imbert.
Et le talent de François Giroux pour décrypter ce que souhaitait Jean-Jacques Savant-Schreiber, comment il se traduisait, comment vous, vous l'avez vu construire le contenu.
Si vous voulez, Jean-Jacques avait des idées et se préoccupait peu de l'intendance, pas du tout. Françoise acceptait ou rejetait les idées, mais comme elle disait en rigolant, comme il en a 100 à la minute, quand on en prend une de temps en temps, c'est déjà énorme. Et elle la mettait en musique. Avec les gens qui faisaient le journal, en relisant les papiers, en les adaptant souvent, vraiment donnant l'unité de ce journal. L'unité, c'était elle. Les idées, c'est lui, l'unité, c'était elle.
Voilà. Alors, Françoise Giroud, elle y apporte quelque chose, d'ailleurs, que n'ont pas forcément tous les clones de l'Express, qui est un génie, le génie journalistique de... Elle écrit beaucoup d'éditoriaux, elle écrit beaucoup de choses, etc. Mais elle réécrit surtout le journal.
Elle apporte une homogénéité.
Alors, elle a apporté d'abord cette idée qui est une idée américaine, qui est l'idée faut qu'il y ait un style au journal. Un hebdomadaire se lit plusieurs fois, mais enfin, quand on lit, on ne lit pas un article, on en lit plusieurs, donc il faut attirer. Et donc, on est obligé d'avoir, par exemple, des attaques, mais des chutes, d'avoir des surtitres, des sous-titres, et tout ça avec des formules qui sont des formules qui sont fortes. La Nouvelle Vague, c'était une formule formidable. Alors, on le sait dans le cas de Françoise Giroud, on sait que la Nouvelle Vague, c'est elle qui a inventé cette formule.
Supposez que vous ayez à me rapporter un accident dont vous avez été témoin. Vous n'allez pas me dire... C'était le 25 novembre 1987, je passais par les Champs-Élysées, il faisait frais, 43 degrés à l'ombre, je dis n'importe quoi, lorsque tout à coup j'ai aperçu une voiture qui... Bon. Vous allez entrer et me dire, je viens de voir un accident. Ça s'est passé entre deux voitures. Attaquer un papier, c'est ça. Il faut attaquer exactement comme vous attaqueriez le récit fait oralement. Et c'est malheureusement parce qu'on le fait très rarement que les attaques de papier sont si mauvaises. Ça n'est pas parce que vous écrivez que vous devez brusquement mettre des gants en filoselle. Et la plupart des jeunes gens, surtout, parce qu'après on apprend, qui écrivent, ont l'immense défaut d'ignorer que si on n'a pas de talent dans les 5 premières lignes, personne ne lira la 6e. Dans un article, il faut accrocher tout de suite. Il y a un très grand journaliste anglais, Beaverbrook, qui disait « il faut mettre les meilleures fraises au-dessus du panier ».
Et regarde un peu, celle qui vient. C'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir, c'est de lui parler. Elle la guiche mes amis, même les plus petits. Pourtant pour elle, je n'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible.
C'était vraiment une grande, grande pro.
Vous vous souvenez, Michel Cotta, de certaines formules?
Oh, bien sûr, on ne tire pas sur une ambulance, sur Chaban-Delmas. J'en ai tant d'autres, il faudrait que je les relise. Mais chacune avait son portrait. Je me rappelle ce qu'elle écrivait, mais ça c'était avant d'ailleurs, que dans l'Express, dans le Tout Paris. Elle écrivait, mais qu'est-ce qu'il fait courir? Mais enfin, elle avait une façon de commencer un papier qui était toujours originale. Elle pouvait commencer par, je me rappelle, je l'avais dit, c'est pas mal, vous voyez, si on commence par « donc, virgule », c'est très bien. Mais ça m'est arrivé après des tas de fois de faire « donc, virgule ». Voilà. Et puis, elle avait aussi un sens des titres. Parce que, je me rappelle de ce que Jean-Jacques aimait faire les titres. Et puis, je me rappelle un jour où il était coincé sur un titre à 1h de l'après-midi. Françoise me dit « allez, on va déjeuner à côté ». Et au bout de... 3 quarts d'heure de déjeuner, elle me dit, bon, je remonte, qu'est-ce qu'il a pu m'inventer? Et en fait, c'est elle qui a trouvé le bon titre après.
C'est une grande famille, un journal.
Ah non, pas du tout, je n'entends pas du tout alors le gouvernement d'un journal comme une grande famille. Pas du tout, c'est horrible ce que vous dites. C'est le paternalisme.
Moi, j'écoute.
Ou le maternalisme, mais non pas du tout. Je considère que nous sommes des gens réunis ensemble pour essayer de faire quelque chose
une
de
équipe.
Bon. Oui, une équipe, chacun avec son tempérament. Il se trouve que je suis en situation d'être directrice de journal. Je suis d'ailleurs probablement la plus âgée du journal, Il y a peut-être une ou deux personnes, mais enfin, je veux dire, l'âge moyen des gens qui sont là est inférieur au mien. Et je crois qu'ils ne me contestent pas sur le plan professionnel, sans ça serait tout à fait impossible. Et les gens qui sont là ont avec moi des rapports tout à fait naturels. Alors, bien sûr, avec une jeune journaliste de 22 ans qui débute, peut-être que j'ai des rapports qui ont une vague teinture maternelle, mais alors qui n'a rien à voir avec ma position, qui simplement qu'il y a quelqu'un de jeune, si je peux l'aider, je le fais, ce qui est tout à fait naturel. Et si elle pense pouvoir profiter de mes conseils ou de mon expérience, peut-être qu'elle le fait plus facilement parce que je serai en âge d'être sa mère. Mais enfin,
François Giroud, vous parlez toujours de votre âge, nous vieillissons tous, ça vous agace de vieillir?
Non, pas du tout. He told me. Song everywhere I went, and I told him that I would, 'cause he wasn't gonna be here to say it anymore, my good friend. So Mr. Backlash, Backlash.
Que représentait l'Express dans ces années 60? C'est le moment de la 64, c'est l'année de la nouvelle formule de l'Express. Oui. Qu'est-ce qu'il incarnait de l'époque?
Si vous voulez, on pensait, à juste titre, Françoise et Jean-Jacques pensaient que la période de la guerre d'Algérie s'était terminée. Mais ça, c'était fini, la période de l'Express militant, en quelque sorte. Militant pour une cause était terminée. Et Jean-Jacques, c'est à Jean-Jacques que revient l'idée. Après, Françoise est une... Comment, elle décryptait ce que voulait Jean-Jacques. C'est une décrypteuse formidable de Jean-Jacques. Mais Jean-Jacques s'est dit, il faut faire plutôt un magazine américain maintenant, Time, Newsweek. Et l'Express changeait aussi de contenu, pas seulement de forme. Il devait être... ce qu'on nous disait, c'est d'abord, on devait écrire pour une certaine élite... Encore que ce soit, on rappelle, le boulanger de Cahors ou l'avocat de Carpentras, mais en tout cas, c'était nettement quelque chose qui était non pas un produit de masse, Jean-Jacques n'a jamais voulu faire un hebdo tiré à 2 millions, mais quelque chose d'assez ciblé sur les classes moyennes, autour de 500 000 exemplaires. C'est ce qu'on a fait exactement. Et il disait, d'ailleurs, il démontrait qu'au-delà, ça devenait autre chose, qu'en deçà, ça n'était pas rentable, mais qu'il fallait s'équilibrer autour de 400 000 lecteurs. Et puis, surtout, qu'à partir de maintenant, il n'y avait plus de position dans l'ensemble du journal, position idéologique dans l'ensemble du journal, mais quelque chose de plus descriptif, de plus à l'américaine. Tout commençait par une scène, on finissait par une scène, les gens étaient en place, on décrivait les gens, on les mettait face à face, vous voyez.
Avec la dramaturgie.
Avec une sorte de dramaturgie et surtout une volonté de faire exister les gens et donner un contenu beaucoup plus à la fois concret, presque physique, des gens avec qui... Donc c'était complètement un changement de situation à 100%. Mais justement, Jean-Jacques était l'homme de ces changements.
Alors en mai 68, par exemple, comment réagit l'Express? Et comment réagissent François Giroud et Jean-Jacques Servan-Schreiber?
Mais ils sont pris de court, c'est très frappant, ils sont pris de court. Ils n'ont pas senti venir le mouvement, d'ailleurs, comme une bonne partie de la presse française. Ils ne sont pas favorables particulièrement aux étudiants ni au mouvement de mai. En revanche, ils sont un petit peu dans le rôle que va jouer le Mendès France dans 68. C'est-à-dire que 68, c'est un peu l'occasion que cherchait Pierre Mendès France pour revenir, et il la manque d'une certaine manière. Il ne parvient pas à s'y imposer. Mais effectivement, il y avait un goût pour cette espèce de transformation des mœurs. Et je crois que ça, c'est très important, parce que Giroud, on peut la regarder du point de vue de la politique petite, étroite, c'est-à-dire qui va gouverner, mais on peut aussi la regarder du point de vue de la politique au sens large, c'est-à-dire des mœurs, de la vie quotidienne. Parce que c'est quelqu'un qui va accompagner ses lecteurs et qui va les accompagner dans les années 60 avec un magazine qui est un magazine de consommation. donc un magazine qui touche beaucoup les élites, qui touche les cadres. Donc ça, c'est une dimension très importante. Et je pense que dans 68, elle a le désarroi du cadre qui a l'impression qu'au fond, on est en train de courir après des fausses valeurs, qu'on oublie les valeurs du travail, mais en même temps du cadre qui est satisfait de voir qu'on peut peut-être s'aimer autrement, qu'on est en train de sortir du paternalisme et qu'on est en train de demander une responsabilité de chacun dans la société. Donc lutter contre le paternalisme, oui, ça c'est Giroud. Et en même temps, ne pas foutre tout par terre, c'est aussi Giroud.
Ouais, y a un côté conservateur chez elle quand même.
Conservateur, je dirais, du point de vue, d'une certaine manière, du point de vue économique, mais pas du point de vue des mœurs. Du point de vue des mœurs, elle est relativement progressiste. En même temps, c'est quelqu'un d'assez bizarre parce qu'elle va être... ça nous obligera à rentrer presque dans sa vie intime et à en chercher quelque chose comme un programme. Mais elle a une vie intime dans laquelle elle va avoir beaucoup d'hommes par rapport aux femmes de sa génération. C'est pas une femme qui a peur du divorce, n'oubliez pas. Il y a très très peu de divorces dans la France des années 60. Elle connaît ça. C'est une femme qui a des amants. C'est une femme qui aussi va avoir des relations avec des hommes plus jeunes qu'elle. Donc c'est un aspect de sa personnalité qui est très original et qui montre une certaine ouverture. Elle a une curiosité intellectuelle et ça, je crois que c'est ce qui fait que dans 68, elle peut voir la dimension d'ouverture. En même temps, je pense que ce qui l'inquiète, comme beaucoup des cadres de l'époque, c'est d'avoir une société qui tombe par terre. Et c'est une frayeur d'ailleurs qui revient régulièrement au sein des classes moyennes.
Si on considère la vie de Françoise Giroud avec un peu de recul, on se dit, mais elle a eu une vie de chien. Elle a passé sa vie à travailler. Alors vous me direz, elle a eu beaucoup de chance parce qu'elle a traversé des périodes successives qui étaient passionnantes. Elle a rencontré les principaux hommes politiques et femmes politiques. Elle a rencontré les principaux artistes, les principaux intellectuels, les principaux écrivains. Elle a passé du temps avec certains. Elle est devenue amie. Elle a tissé des liens qui ont perduré à travers le temps. Mais en même temps, chez elle, il y avait une perpétuelle absence de cloisonnement entre vie privée et vie professionnelle. Il n'y avait pas de frontière. Sa vie professionnelle était aussi sa vie privée, et sa vie privée était d'abord sa vie professionnelle. Sauf les rares moments où elle s'autorisait à avoir des amants, ce qui était très important, parce qu'elle considérait que c'était un sport à part entière, que c'était aussi un délassement et qu'elle a considéré que c'était le meilleur des liftings. Elle aimait beaucoup faire l'amour. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui va rester après elle, parce que maintenant, il y a les Cougar Girls qui font la pluie et le beau temps dans les médias. Mais elle a inventé la Cougar Girl avant tout le monde et sans le dire à personne.
On dit qu'elle incitait les femmes journalistes à être charmante avec les hommes politiques.
C'est pas elle du tout.
Alors, c'est une légende.
C'est faux. C'est pas une légende. C'est faux. C'est Jean-Jacques Servan-Schreiber qui un jour nous a recrutés, essentiellement Catherine Ney et moi. Moi d'abord, puis Catherine Ney. Hein, et qui nous a, en 1967, mis dans les milieux politiques. En disant, au fond, les hommes ne parlent pas, ils vous parleront davantage. Et je me rappelle, au contraire, et contrairement à la légende, que Françoise nous a reçus et nous a dit, faites très attention, parce que vous savez, dans ce métier, il ne faut pas croire qu'on séduit, on ne séduit pas si facilement, et en plus, il faut durer dans le métier. Donc, vous ne faites rien, faites très attention à vous. Et donc, au contraire, elle a été furieuse que Jean-Jacques nous dise ça. Et en fait, après, on était trois filles, on a trouvé une bonne distance, les uns avec les unes par rapport aux autres et par rapport à tous les hommes politiques. Et au bout du compte, on est resté, c'est pas un hasard si on est resté 40, 50 ans dans la vie politique.
I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock to 4, and Lord, how slow the moments go
when all I do is pour.
Michel Monceau, vous avez rencontré François Giroux en quelle année?
Je pense que quand j'y suis entrée, l'Express devait avoir un an.
Donc c'est.
Eh ben voilà, 55.
François Giroux, c'était une excellente journaliste ou une excellente patronne de presse?
Je dirais les deux, parce qu'elle avait des idées, parce qu'elle tenait le journal. Quand même, Servan Schreiber est allée en Algérie, elle était toute seule. Elle avait, je pense, un très bon rapport avec les gens avec lesquels elle travaillait, parce qu'elle était juste. Alors ça, c'est toujours assez agréable. Puis elle était un petit peu snob aussi, c'est-à-dire que si... elle sentait qu'on avait du succès, et même du succès dans la vie privée, c'est-à-dire pour les jeunes femmes qui travaillaient là, des succès mondains, amoureux, etc. Ça lui faisait plaisir, ou peut-être même pas plaisir, parce qu'elle n'était pas dans ce registre-là, mais elle sentait que c'était des bons chevaux.
Ça vous agaçait pas?
Ça m'amusait. Mais je dois dire qu'il y avait une atmosphère assez ludique dans l'Express. Le lundi matin, on arrivait, il y avait beaucoup de filles qu'elle avait engagées, des filles qui lui ressemblaient, c'est-à-dire qui voulaient être libres et qui construisaient leur vie. Et le lundi, on se racontait le week-end et on se racontait les femmes enceintes, si elles étaient enceintes ou pas, parce qu'il fallait à ce moment-là trouver une solution. Tout ça était mis en commun. Alors, je ne peux pas dire qu'elle était dans les bureaux à parler de ça, mais c'était un climat très sympathique. Je dirais sans jalousie même.
Vous trouviez, Michel Manson, que François Giroux était une femme féministe?
Certainement, oui, et la première même. Et quand il y a eu les assemblées des Beaux-Arts en 70, par là, moi j'avais l'impression d'avoir tout vécu à l'Express. Et je ne suis pas allée dans ces endroits-là, je suis allée à Gennevilliers pour avoir une action féministe différente et efficace pour... faciliter les avortements, etc. Mais je dois dire qu'à l'Express, ça se faisait tout seul. Le lundi, ce que je vous raconte, c'était ça, déjà.
Et elle n'organisait pas de rivalité entre les femmes qui travaillaient autour d'elle?
Je ne crois pas. Je crois qu'elle avait choisi des femmes qui, sans doute, lui ressemblaient un peu, je vous dis, dans cette espèce d'ambition d'avoir une vie libre, autonome. Aucune n'était mariée. Elle était très jeune. Plutôt bien physiquement, mais ça faisait partie d'un côté un peu snob de l'Express, qui était un journal de gauche, mais pas populaire. Et je me rappelle des choses vraiment étonnantes. Il y avait des manifestations à ce moment-là, la guerre d'Algérie, etc. Et il y avait des inscriptions dans le hall du journal pour aller aux manifs. On disait « ne mettez pas vos Chanel ». ne portait pas de sac, enfin c'était assez cocasse rétrospectivement.
Alors après, elle a une autre carrière politique, pas forcément successful, parce que c'est la première ministre des femmes.
Ça vous a choqué, Serge Julie, qu'elle soit ministre de Valéry Giscard d'Estaing?
Non, d'une certaine manière, elle suit JGSS, les deux y vont. Jean-Jacques Servan-Schreiber ne va pas rester, il reste qu'un jour, je crois, donc une semaine. Bon, il faut voir où on est en 74, c'est Giscard fait une sorte d'adaptation de la société française, l'après 68. Ça urgeait, ça tardait, et Giscard le fait. Alors il le fait imparfaitement, il le fait pas dans tous les domaines, mais il le fait quand même, et... la présence de François Giroux incarne ça. Et elle a un bilan qui n'est pas ridicule. Elle jette les fondements de ce que pourrait être une politique dans ce domaine. Alors, finalement, son entrée en politique, elle est allée sur le seuil, restée un certain temps, puis elle est ressortie tout de suite.
Sylvie Pierre-Brossolette, dans quelles circonstances avez-vous rencontré François Giroux?
C'était un peu un hasard, je finissais Sciences Po, j'ai croisé le tout nouveau directeur de cabinet, Yves Sabouret, de Françoise Giroux, et il m'a dit « ça ne t'intéresserait pas de faire un petit tour au cabinet de Françoise Giroux ?» Moi je me préparais mollement à préparer l'ENA, puis j'ai bifurqué, j'ai dit « Françoise Giroux, c'est irrésistible », donc dès septembre, je suis entré à son cabinet, et ça a été une grande joie et surtout une expérience fantastique.
Dans ce gouvernement, il y a une autre femme ministre, qui est Simone Veil. qui est ministre de la Santé, qui va s'occuper de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Pourquoi c'est Simone Veil qui s'en occupe et pas Françoise Giroud ?
Parce que Valérie Giscard d'Estaing souhaitait que ça soit Simone Veil. D'ailleurs, elle est entrée au gouvernement avant Françoise Giroud, qui n'y est entrée qu'à la faveur du départ de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Et donc Simone Veil, c'était son contrat de départ, elle devait faire voter cette loi, et elle avait une telle aura, un tel poids personnel, que Valérie Giscard d'Estaing disait qu'il se mettait plus de chances de son côté que ce soit Simone Veil, qui n'était pas réputée de gauche, qui fasse passer cette loi. Françoise Giroud n'a mis qu'une condition pour entrer au gouvernement, c'est que cette loi passe. Bien sûr qu'elle aurait bien aimé la défendre, mais c'était évident qu'avec une chambre qui était encore très à droite, très dominée par les gaullistes, très hostile à l'interruption volontaire de grossesse, Françoise Giroud était un chiffon rouge pour ces gaullistes qu'elle avait largement assassiné dans ses éditoriaux de l'Express. Donc c'était quand même plus habile politiquement, même si c'était encore très difficile, que de confier le dossier à Simone Veil.
Mais elle a participé à la préparation de cette loi avec Simone Veil ?
Un peu, elle était consultée, mais c'est vrai que les rapports entre les deux femmes à l'époque n'étaient pas formidables. Il n'y avait pas une confiance et une amitié très chaleureuse. Françoise Giroud a dû dire ce qu'elle avait à dire, mais c'est vrai que l'élaboration de la loi était faite chez Simone Veil.
Après avoir été secrétaire d'État à la condition féminine en 1974, Françoise Giroud est secrétaire d'État à la culture et quitte le gouvernement en 1977. Dans les années 80, après son expérience au gouvernement, Françoise Giroud écrit des livres et elle a moins le sens de l'actualité, elle a moins le sens du moment, moins le sens de l'air du temps.
Est-ce que je dirais ça ? Je n'en sais rien. D'abord, je vais vous dire, quand on vieillit, on a de moins en moins le sens de l'actualité. Parce que moi, les trucs qui m'intéressaient, les événements, les épisodes, ça, qui m'intéressaient terriblement il y a 30 ans, bon, je connais moins les gens. Je connais bien sûr les leaders politiques, mais ce n'est pas là que ça se passe. Généralement, les anecdotes, ça se passe dans les adjoints, des adjoints, des adjoints. Donc, quand on a été ministre, on perd un peu le contact. Et ça l'intéressait sûrement moins. Et elle a opté de faire des livres sur des romans d'abord, sans actualité. Romans dont moi j'ai aimé beaucoup certains, mais pas beaucoup d'autres. Et puis ses conseils en journalisme qui étaient absolument formidables, ses mémoires qui étaient merveilleuses. Enfin voilà, La Comédie du Pouvoir était vraiment un premier livre politique plus qu'intéressant, puisque les hommes politiques ont été si furieux qu'elle puisse l'écrire.
Alors, chroniqueuse, fait une chronique dans l'Observateur toutes les semaines sur la télévision, et surtout écrit des livres, dont certains à la fois souvent très personnels, incroyablement personnels, beaucoup de choses sur le journalisme, une sorte de leçons qui sont de journalisme, et puis des chroniques sur le temps. Donc,
et ces romans, Serge Julien, vous les trouvez comment ?
Ceux qui sont le plus émouvants, en tout cas, c'est ceux qui serrent le plus près à sa vie personnelle et ses aventures personnelles, ses drames. Elle a connu beaucoup de drames dans sa vie, sur le plan personnel.
Beaucoup
d'effondrements. Oui, enfin, d'effondrement, le mot, je dirais pas forcément ça, parce que c'est une femme verticale. Elle souffre beaucoup. Quand JJSS la quitte, ça a été quelque chose qui s'apparentait à un effondrement, mais elle a aussi voulu mourir, donc... Toutes ces choses existent, mais c'est pas assez rapidement. Elle s'est redressée. C'est ce qui m'a toujours frappé, moi qui l'ai connue plutôt dans la dernière partie de sa vie, à partir des années 80. C'est une femme verticale. C'est une femme d'abord qui se tient incroyablement droite, qui ne veut jamais faire vieille dame, et qui a une sorte de discipline personnelle. Voilà, on peut avoir une faiblesse, mais on ne s'effondre pas.
Il faut longtemps, vous savez, pour s'habituer à soi. et quelquefois on s'y habitue jamais.
Archive extraite de l'émission À voix nue avec Marion Thibault.
Enfin, moi j'ai été bien analysée, par conséquent, je me suis réconciliée avec moi-même.
Vous avez eu besoin d'aller sur un divan de psychanalyste?
Ah oui.
Qu'est-ce qui a provoqué ce besoin?
Un grand craquement général.
Vous aviez quel âge?
J'avais un peu plus de 40 ans.
Qu'est-ce que c'était le craquement? C'était provoqué par la naissance de votre fils ou par autre chose?
Par une tentative de suicide. Je ne me supportais plus, justement.
Vous étiez mère de famille à l'époque? Ou pas encore?
Oui, bien sûr. Oui, oui, oh là là. Oui. Je comprends.
Pourquoi est-ce qu'une femme comme vous a pu avoir éprouvé le besoin de se réconcilier, de se recoller?
Mais une femme comme moi ou pas comme moi, tout le monde sait qu'à un moment donné dans sa vie, il a failli un jour se suicider. Non, tout le monde y a pensé au moins une fois. Je ne dis pas que tout le monde l'a fait. Croyez-vous que personne dans sa vie ne s'est dit un jour? Je crois que si. Je crois que si, je crois que c'est une idée qui a traversé l'esprit de chaque personne au moins une fois dans sa vie. C'est un jour où tout d'un coup on n'en peut plus. On ne peut plus, on ne se supporte plus, on ne supporte plus ce qu'il y a autour de soi, où on est enfermé dans une sorte de forteresse dont on a l'impression qu'on ne sortira jamais.
Vous êtes allé voir spontanément un psychanalyste?
Non, pas du tout. C'est lui qui, par chance d'ailleurs, qui était un de mes amis. En principe, ça ne se fait pas chez les psychanalystes de
C'était pas n'importe qui.
C'était Lacan, oui. Et c'est lui qui est venu me chercher, parce qu'il a senti que les choses allaient très mal pour moi, et qu'il m'a vraiment, je dirais, de force, presque, prise en analyse. Et je lui suis très reconnaissante. Voilà une expérience qui est intéressante, l'analyse.
La dureté de Françoise Giroud, Michel Cotta, vous dites que vous n'y avez pas eu droit, mais vous en avez été témoin.
La dureté, ça faisait partie de son professionnalisme. C'est-à-dire, si vous ratiez un papier, elle était la première à vous dire ça va pas, qu'est-ce que vous avez fait. Moi, j'ai toujours trouvé dur, mais juste, hein, franchement. Oui, c'est vrai qu'elle ne passait rien. Elle ne passait rien. J'en rappelle. Je me suis mariée quelques années après à rentrer à l'Express avec un éditeur de renom. Et la seule chose qu'elle médite, c'est qu'elle m'a pris à part et elle m'a dit « Je ne voudrais pas que vous deveniez mondaine. » Et j'ai dit « Mais soyez sûre que je ne le deviendrai pas. » Mais c'était comme cadeau de mariage, c'était un peu rude, hein, mais voilà, c'était Françoise.
En 1998, François Giroud est décoré du grade de commandeur de la Légion d'honneur. Oui. Et elle fait un discours dans lequel elle dit qu'elle se souvient de l'humiliation qu'elle a ressentie en voyant sa mère humiliée socialement, en étant une enfant déclassée, en ayant connu la pauvreté.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que le déclassement, c'est un élément important dans la construction de sa personnalité et de son système de fonctionnement?
Alors, je ne sais pas, déclassement ou pas, est-ce qu'on peut appeler ça exactement ça? Non, c'est quelqu'un qui a été pauvre après avoir été riche. C'est plutôt ça, parce qu'elle ne s'est jamais déclassée. Sa mère a toujours été, pour elle, sa lumière, et sa sœur aussi. Elle ne s'est pas sentie déclassée, elle s'est sentie pauvre. Voilà. Donc, ça l'a obligée à travailler très tôt, puisqu'elle a travaillé à l'âge de 14 ans. Donc, ça l'a obligée à travailler avec des gens comme Allégret. Et ça a modifié complètement sa vie. C'est-à-dire, ça lui a donné, c'était vraiment travailler ou périr. Alors ça, de ce point de vue-là, ça l'a beaucoup changé. Mais, comme elle disait, assez drôle, elle est devenue pauvre à un moment donné, mais c'était une ancienne riche. Et quelque part, c'est beaucoup moins déstabilisant que de naître pauvre, de continuer pauvre et de conquérir ses galons. Voilà, en tout cas, je pense que ça l'a beaucoup aidée et que, au contraire, ça a été plutôt pour elle un soutien d'être provisoirement pauvre, plus qu'un handicap.
La pauvreté, je ne crois pas du tout que c'est un malheur pour les enfants. Ils ne savent pas ce que c'est que la pauvreté. Le seul malheur pour les enfants, véritable malheur, c'est de ne pas être aimé. Mais cette pauvreté, cette difficulté financière, c'était plus que de la pauvreté, parce que c'était une situation tout le temps remise en question, où j'ai vu partir tout ce qu'il y avait dans la maison, les tapis, les meubles, etc. Pourquoi ça m'a tellement marquée ? Parce que j'en ai vu les répercussions sur ma mère. Et que j'ai eu le sentiment qu'elle-même était persécutée par cette famille autour d'elle. Je me suis beaucoup exagéré les choses, naturellement. Tout est toujours moins simple qu'on ne le dit. Mais moi, je l'ai vue terriblement malheureuse, et je l'ai vue pleurer, et je l'ai vue obligée de prendre des pensionnaires, et humiliée par ces gens, mes tantes et mes oncles, qui la traitaient mal. Je l'ai vue sangloter un jour où on a envoyé un paquet de vêtements à la maison en disant « ce sera pour les enfants, ce sont des vieilles robes dont on n'a plus besoin ». Tout ça, en tant qu'enfant, n'était pas grave. C'était grave parce que j'ai vu comment elle le prenait, comment elle le ressentait. C'est elle qui était humiliée, c'est elle qui était malheureuse. Et j'ai, comme tous les enfants, j'ai très mal supporté de voir ma mère malheureuse. Et c'est ça mon mauvais souvenir d'enfance, c'est pas mon malheur à moi.
François Giroux, c'était une excellente journaliste ou une excellente chef de rédaction ? Ou les deux ?
Moi, je crois que c'était une vraie patronne de presse.
Plus qu'une...
Il ne faut pas négliger pour autant des papiers qu'elle a faits, qui sont de très bons papiers. Donc, elle a formé des gens, elle a formé des journaux. Elle a... Voilà, moi, c'est ce que j'admire, évidemment, le plus chez elle. Ça ne va pas de soi de faire ce métier-là. Quand on parle des journalistes, c'est toujours des individus déterminés, leur plume. Bon, il en faut, ce qu'on appelle les patrons de presse, mais qui est plus justement, moi j'appelle ça plutôt des patrons de médias, ou en tout cas des animateurs de rédaction, des forgerons, si on veut. Voilà. Elle a été ça, elle a été à la forge. Et elle a... comme je vous le disais, former à la fois des journalistes et des médias qui ressemblaient effectivement à l'Express, qui était évidemment d'autres combats, etc., d'autres histoires. Mais c'est... Oui, il y a une œuvre, là.
Elle n'allait jamais sur le terrain.
Ça n'a pas été une journaliste de grand reportage, par exemple. C'est pour ça que... Sa compétence a été de diriger, d'inventer, de diriger un journal. Et je pense que c'est très compliqué.
J'avais en effet la vocation d'être médecin parce que mon grand-père était médecin et un de mes oncles était médecin. C'était acquis, hein, c'était entendu que je serais médecin. Et un jour, à la suite d'une de ces circonstances dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai compris tout d'un coup qu'il n'était simplement pas question que je fasse 6 ans d'études. Je ne pouvais pas être médecin. Il a fallu absolument que je mette une croix sur ce dont j'avais toujours rêvé et ce dont ma mère rêvait pour moi. J'insiste là-dessus parce que je crois que tous les enfants n'ont qu'un but dans leur vie quand ils deviennent adultes, c'est de réaliser le désir de leur mère. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le désir de ma mère a été que je me substitue à mon père. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Donc, j'avais 14 ans et je me suis dit, pourquoi est-ce que je vais traîner davantage? Je ne peux pas laisser les choses en l'état, il faut que je prenne cette famille en main, il faut que je m'occupe de la faire vivre. Et alors, j'ai pris là une décision qui est peut-être la seule décision de ma vie dont je sois tout à fait fière. Parce que je pense qu'elle relevait de l'intelligence, je le dis sans modestie. Je me suis dit, travailler, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais rien faire.
une de mes tantes, trop contente de voir que je renonçais à être médecin, a dit « Je vais te trouver une place de vendeuse. » Elle avait, je ne sais pas quoi, un maroquinier, je ne sais qui elle a demandé s'il voulait prendre ses nièces comme vendeuse. Le maroquinier a dit oui tout de suite. Et j'ai dit non. Et ce dont je suis fière, c'est la chose suivante. Je me suis dit, si j'entre quelque part comme vendeuse, je suis perdue. Je ne vais rien apprendre. Il faut que j'aie un métier. Qu'est-ce que je peux faire à 14 ans? Qu'est-ce que je peux apprendre? Je peux apprendre une chose, c'est la sténodactylo.
Premier boulot, vous avez 15 ans à peu près, vous rentrez dans une librairie. Et à une question qu'on vous avait posée à un moment donné de votre carrière, est-ce que le libraire était bien? Vous avez dit non, c'était un patron, il n'y a pas de bon patron.
Oui.
C'est étrange d'entendre ça dans votre bouche, parce que Dieu sait si vous, vous avez été patron.
Oui, mais je crois qu'il n'y a pas de bon... Enfin, je pense profondément qu'il n'y a pas de bon patron, qu'il y a quelque chose d'inhérent à l'état de patron qui fait qu'on ne peut pas être bon. Marc Allégret, le metteur en scène, connaissait ma famille, connaissait ma mère en tout cas, et il m'a dit, écoute, tu vas venir faire du cinéma avec moi. J'ai dit, mais faire du cinéma, ça veut dire quoi? Il dit, mais qu'est-ce que tu sais faire? J'ai dit, je suis sténodactylo. Bien, eh bien, tu peux devenir script girl. Je t'apprendrai ce métier, c'est très facile. Bon, mais qu'est-ce que je gagnerai? Il m'a dit, ben, tu gagneras environ 300 francs par semaine. Je gagnais 800 francs par mois chez mon libraire. J'ai réfléchi un petit peu, j'ai quand même interrogé ma mère, j'ai interrogé ma sœur. Et je me suis dit, tout de même, même avec ce problème de l'emploi précaire, ça vaut vraiment la peine, c'est quelque chose de nouveau, j'y vais.
Et la grande illusion. Je crois que dans sa formation, la formation de la journaliste, ce travail sur le cinéma, sur d'abord de script en termes de continuité dans un tournage, et surtout d'écriture, parce qu'elle a fait un travail un peu de script docteur, on dirait aujourd'hui. Des morceaux de dialogue qu'elle a réécrit ou des choses comme ça, et je pense que ça l'a aidé. Alors, est-ce que ça a été décisif? Sûrement pas, mais ça lui a fait pratiquer une langue qui était une langue parlée. Et la richesse du langage parlé, devenu un mode de communication. Or, le fait d'avoir fait du cinéma, d'avoir travaillé sur la langue parlée, je pense que ça l'a aidé sans doute.
I'm susceptible to stars in the sky. I'm incurably romantic. If they're told to me all covered with sighs, the wildest of lies seem true. Each time a lovebird sings, I have no defense.
Et je regardais l'autre jour un documentaire qui est d'ailleurs formidable, qui s'appelle September Issue, qui est sur le numéro de Vogue du mois de septembre. Voilà, et donc cette rédaction est dirigée par Anna Wintour, bon, mythique, voilà. Mythique, d'accord, mais quand on voit le film, on la voit diriger le journal. Et ce qui est fascinant à voir, y compris dans des conflits avec les gens. On regrette qu'il n'y ait pas ce film sur François Giraud, sur un film équivalent sur François Giraud dirigeant l'Express. Avec la personnalité de Gigi Hessès qui voulait l'utiliser toujours pour faire des coups politiques, bon, ce qui est quand même pas simple pour diriger une rédaction, d'embaucher des gens, de modifier des papiers, de réécrire des papiers, y compris des gens d'inspirer confiance, de faire collaborer des gens comme Mauriac ou d'autres, etc. Enfin, tout ça, elle a eu ce talent de... Alors moi j'ai une image pour ce métier, pour définir ce métier, je parlais de forgeron tout à l'heure, mais le métier, l'image la plus exacte, je dirais, c'est celle du chef d'orchestre. Le chef d'orchestre n'écrit pas la partition, mais il l'interprète. Et il y a énormément de solistes, des gens qui ont un talent fou, à qui elle fait sortir des sons, des sonorités, arrive à les marier, c'est un mariage. Moi, j'ai une formule de Jules Renard que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de grands journalistes, il n'y a que des grands journaux. Et d'une certaine manière, la vie de Françoise Giroud prouvait ça. Et je crois qu'elle a été un très grand chef d'orchestre de médias.
Each time a lovebird sings, I have no defenses. My heart is off on wings, along with my senses.
I'm a setup for the moon when it's bright. I'm incurably romantic. And I shouldn't be allowed out at night with anyone quite like you.
But oh, your arms are nice, and it would be awfully nice.
Michel Cotta, elle avait des moments de tendresse, Françoise Giroud. Vous parliez de filiation entre elle et vous.
Oui, on pouvait dire de tendresse sûrement, rare, hein. Rare, très rare. Encore une fois, elle ne se laissait pas aller. Je ne sais pas comment elle était avec les hommes, hein, mais avec les femmes, elle se laissait peu aller. Mais enfin, on sentait bien que quand Françoise poussait une porte et vous dit « Vous déjeunez avec moi ?» avec ce petit sourire, bon, ben, on se disait « Oui, c'est de la tendresse. » Et moi, j'en avais infiniment pour elle, il faut dire. Et j'étais éblouie dans les premières années, j'étais absolument éblouie par sa façon de se comporter, par sa manière à la fois tout à fait féline, hein, et tout à fait féminine. Et puis après, par sa volonté, qui était au contraire quelque chose de presque viril chez elle, si on veut, avec un sens de la trajectoire, un sens du but à obtenir, des lecteurs à conquérir, des couches sociales à conquérir, très, très, très intéressant. Et je me rappelle qu'à un moment donné, un de mes amis de l'Express aussi, un des rédacteurs en chef de l'Express, m'a dit « Je suis consternée parce que je te vois te détruire et je vois cette femme te détruire. » Je dis « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Mais tu es fou !» Il m'a dit « Oui, mais finalement, regarde, tu es arrivé, on avait l'impression que tu pouvais tout faire, maintenant tu penses qu'à ton boulot, tu sors jamais, tu penses qu'à ça, tu penses qu'aux articles, qu'à ce que tu peux ramener de tes rendez-vous, tu es devenue complètement différente. Et tu sais, il faut que tu saches que Françoise, quand même, humainement, elle a eu une vie désertique. Alors, toi, je voudrais pas que tu fasses la même chose. J'ai traité de vieux con, quoi. En gros, voilà. Ça, elle m'a transmis ça. Ouais.
Yeah, yeah. Now, last year this time, Langston Hughes left us.
C'était Une vie, une œuvre, Françoise Giroud, une émission de Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Merci à Laure Adler, Michel Cotta, Michel Manceau, Sylvie-Pierre Brossolette, Serge Julie et Fabrice Dalméda. Merci également à Yves Sabouré. Mixage Alain Joubert, attaché d'émission Laurence Genepin, documentaliste Ina, Véronique Jolivet.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon et consacrée aujourd'hui à Françoise Giroud. Vos commentaires, tendres ou durs, sont les bienvenus sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous trouverez également pas loin de 101 compléments et bien sûr de quoi podcaster et réécouter ce documentaire par tous les temps. La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, à l'occasion des 350 ans de sa disparition, le grand mathématicien Pierre de Fermat.